VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 6 mars 2017. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
Au Mali, 11 militaires ont été tués hier dans l'attaque d'une base près du Burkina Faso.
Toujours au Mali, la tension reste vive à Tombouctou, encerclée depuis 3 jours par les combattants du CJA.
Dans le nord-est du Nigeria, des milliers de femmes déplacées par l'insurrection de Boko Haram ont protesté hier contre leurs conditions de vie précaires.
L'Observatoire congolais des droits de l'homme dénonce une régression totale de ses droits fondamentaux au Congo-Brazzaville en 2016.
Ici aux États-Unis, vive controverse après les accusations du président Donald Trump contre son prédécesseur Barack Obama sur des écoutes téléphoniques à Trump Tower.
Nouveau tir de missiles balistiques par la Corée du Nord, Washington condamne de nouveau.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, 11 militaires ont été tués et 5 blessés tôt hier matin au cours d'une attaque contre la base militaire de Bouli Kessi dans le centre du pays, près du Burkina Faso. C'est ce qu'ont annoncé le ministère de la Défense dans un communiqué lu à la télévision. Selon une source sécuritaire régionale, l'attaque de dimanche a été menée par le groupe du djihadiste Malaam Ibrahim Diko qui dirige Ansarul Islam. Ce mouvement terroriste a revendiqué plusieurs attaques ces derniers mois dans le nord du Burkina, notamment le raid le plus meurtrier de l'histoire contre l'armée burkinabé qui a fait 12 morts et traumatisé le pays.
La situation reste très tendue à Tombouctou, encerclée depuis 3 jours par les combattants du Congrès pour la justice dans l'Azawad, le CJA. Les populations restent terrées chez elles. L'armée ne contrôle actuellement que le seul checkpoint vers la route de Gundam. Le CJA exige son implication dans la mise en place des autorités intérimaires, mais aussi des structures techniques de la mise en application de l'accord d'Alger. Kassim Traoré a joint Hamé Ag Mohamedoun, porte-parole du CJA.
Comme vous le savez, le CJA, depuis 3 jours, a ses hommes à Tombouctou. Donc une partie de nos forces est dans les quartiers à Baradou, à Barras, et le reste de nos unités se trouve dans les alentours de Tombouctou. Notre démarche est claire, c'est pour l'inclusivité. Donc nous rejetons les autorités intérimaires exclusives. Les populations de Tombouctou, sédentaires et nomades, ont manifesté clairement aujourd'hui avec une grande mobilisation leur soutien au CJA et les rejets catégoriques à ces autorités intérimaires exclusives. Le CJA a voulu rentrer en ville et les forces barkhanes se sont interposées. Nous avons accepté cela, le sens élevé des responsabilités de nos officiers sur le terrain après Ali, après les défis. Toutefois, nous mettons en garde le gouvernement de tenter de forcer la mise en place des autorités intérimaires à Tombouctou, parce que si cela est fait, nos forces également vont forcer l'entrée dans la ville de Tombouctou et prendre le contrôle de tous les bâtiments agricoles.
Des milliers de femmes déplacées par l'insurrection islamiste de Boko Haram ont protesté dimanche contre leurs conditions de vie précaires dans le nord-est du Nigeria. C'était à l'occasion d'une visite d'une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU en tournée dans 4 pays du bassin du lac Tchad. Selon l'AFP, les manifestantes ont accusé les autorités et agences de secours nigérianes de détourner l'aide humanitaire et d'être responsables de la pénurie de nourriture dans leur camp qui accueille 15 000 déplacés à Maïdougouri, capitale de l'État du Borno. Nous reviendrons sur cette visite de la délégation du Conseil de sécurité en seconde partie de cette édition.
L'Observatoire congolais des droits de l'homme dénonce une régression totale de ses droits fondamentaux au Congo-Brazzaville en 2016. Un constat établi dans le rapport annuel de l'ONG intitulé « République du Congo, une gouvernance par la terreur et le mépris des droits humains ». Pour des précisions, Timothée Donangmaï a joint à Brazzaville Trésol Nzila, directeur exécutif de l'ONG.
La terreur contre les adversaires politiques, la terreur contre les paisibles citoyens, l'impunité des violations des droits humains est en train de prendre des dimensions très inquiétantes. Vous lisez le rapport, vous allez vous en rendre compte que la situation des droits de l'homme est inadmissible au Congo-Brazzaville. Et il nous est donc amené à sonner l'alarme pour dire aux décideurs que ça ne doit pas continuer comme ça, il faut que les choses changent.
Vous parlez d'une régression totale des droits de l'homme en 2016 au Congo-Brazzaville.
Si on essaie de prendre la courbe 2016, 2014-2015 avec le référendum constitutionnel, 2016 avec l'élection présidentielle qui effectivement a été un moment décisif dans la dégradation de la situation des droits humains. Effectivement, 2016 a été très dur en matière de droits de l'homme et je vous assure que 2017 s'annonce encore plus difficile.
Plus de 100 prisonniers de guerre soudanais capturés pour certains il y a plusieurs années par un groupe rebelle soudanais ont été remis dimanche aux autorités de Khartoum grâce à une médiation de l'Ouganda.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le directeur du FBI, James Comey, a demandé au ministère de la Justice de rejeter publiquement les accusations du président Donald Trump, selon lesquelles son prédécesseur, Barack Obama, avait ordonné des écoutes de ses téléphones à Trump Tower à New York avant la présidentielle du 8 novembre. Selon des officiels cités par l'agence AP, le Washington Post et le New York Times, M. Comey croit que les allégations de M. Trump sont fausses et insinue une implication du FBI dans des activités illégales. Selon la loi américaine, un président n'a pas les pouvoirs requis pour ordonner de telles écoutes de téléphone. Et pour sa part, la commission du renseignement de la Chambre des représentants cherchera à déterminer si l'administration Obama a demandé la mise sous surveillance du président Donald Trump durant la campagne électorale. C'est ce qu'a indiqué le président de cette commission, le député républicain Devin Nunes de Californie. Les précisions de Timothée Donangmaï.
La commission qui enquête sur les interférences de la Russie dans la campagne électorale américaine tentera de déterminer si le gouvernement a mené des activités de surveillance sur des responsables ou des représentants de l'équipe de campagne d'un quelconque parti politique, a fait savoir le député Nunes. Le président Donald Trump a demandé qu'une telle enquête soit conduite dans le cadre de celle sur les activités russes, après avoir accusé sur Twitter son prédécesseur d'avoir ordonné des écoutes téléphoniques contre lui, une accusation catégoriquement démentie par le porte-parole de l'ancien président Obama. L'ancien directeur national des renseignements de l'administration Obama, James Clapper, a assuré sur la chaîne de télévision NBC qu'aucune activité de cette nature n'a été menée contre le candidat Trump ni contre sa campagne électorale. Aucune autorisation judiciaire n'a été sollicitée à cette fin, a ajouté James Clapper. Des législateurs tant républicains que démocrates ont demandé au président Trump d'avancer les preuves de son allégation.
Le président français, François Hollande, a accusé Moscou d'utiliser tous les moyens pour influencer les opinions publiques avec parfois les mêmes procédés, les technologies en plus, que l'ex-Union soviétique. Dans un entretien à des journaux européens publié lundi, M. Hollande a dit qu'il s'agit d'une stratégie d'influence de réseau avec des thèses très conservatrices sur le plan des mœurs, mais aussi la prétention de défendre la chrétienté par rapport à l'islam. Le chef de l'État français avait mercredi ordonné la mobilisation de tous les moyens nécessaires de l'État face aux cybermenaces pesant sur l'élection présidentielle en France.
Washington a condamné fermement le lancement de 4 missiles balistiques par la Corée du Nord lundi, promettant d'utiliser toute la gamme des moyens à sa disposition contre cette menace croissante. La Corée du Nord a tiré presque simultanément 4 missiles balistiques, dont 3 qui sont tombés dans les eaux japonaises. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Shinzo Abe devant le Parlement. Pour les officiels japonais, ces tirs constituent une grave menace et une note énergique de protestation a été adressée à Pyongyang. Il coïncide avec les manœuvres militaires américano-sud-coréennes que la Corée du Nord considère comme un prélude à une invasion de son territoire.
L'intensification des combats à Mossoul en Irak et dans le nord de la Syrie provoque l'exode de dizaines de milliers de civils, ce qui aggrave encore la situation humanitaire dans ces deux pays. À Mossoul, on a compté plus de 45 000 personnes depuis le début, le 19 février, de l'offensive pour chasser les djihadistes du groupe État islamique de la partie ouest de la ville. Dans le nord de la Syrie, le nombre de déplacés est évalué à 66 000.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco d'Ilidico.
La Tanzanie interdit désormais l'exportation de minerais bruts non traités. Cette interdiction concerne notamment les minerais d'or, de cuivre, de nickel et d'argent. Selon les autorités tanzaniennes, la mesure annoncée vendredi vise à créer de nouveaux emplois locaux et d'augmenter les revenus tirés des mines. Selon le dernier rapport de l'Institut national pour la paix de Stockholm, l'Algérie est le plus gros importateur d'armes lourdes en Afrique sur la période 2012-2016, avec 46% du total des importations. Le Maroc arrive en deuxième position avec 15%. Ils sont suivis par le Nigeria, le Soudan, l'Éthiopie, le Cameroun et la Tanzanie. L'Égypte et l'Afrique du Sud ne figurent pas dans ce classement. L'or a fortement reculé au cours de la semaine écoulée, pénalisé par la perspective d'une hausse du taux directeur de la Réserve fédérale américaine. L'or est passé de son plus haut niveau depuis mi-novembre 2016 à 1,26 $ l'once, atteignant son plus bas à 1,22 $. Les cours du cacao ont creusé leurs pertes, atteignant jeudi 1,86 $ la tonne, son plus bas depuis 8 ans et demi. Le dernier rapport de l'Organisation internationale du cacao confirme les risques de surplus de l'offre par rapport à la demande, avec un excédent prévu de 264 tonnes pour la saison 2016-2017 qui a débuté en octobre. En Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, de bonnes conditions météorologiques pourraient permettre une production record de 1,9 million de tonnes, ce qui serait une augmentation de 20% par rapport à l'année dernière.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Du cyclisme pour démarrer, l'édition 2017 de la Tropicale Amissa Bongo a rendu son verdict avec le sacre de Johan Gène.
Le Français remporte ainsi la 12e édition de cette compétition et c'est à l'issue de la 7e et dernière étape courue entre Owendo et Libreville, 137 km, que Johan Gène a su garder son maillot jaune. Précisons que cette dernière étape a été remportée au sprint par l'Érythréen Meron Abraham.
On passe au foot avec la CAN des moins de 20 ans en Zambie qui a livré son verdict dans le groupe A.
Guinéen-Zambien file en demi-finale. Le pays hôte tout d'abord s'est joué de l'Égypte, victoire 3-1 et les Zambiens qui terminent donc premier avec 9 points en 3 matchs. Dans l'autre rencontre, la Guinée a dominé le Mali 3-2 au terme d'un match plein de rebondissements qui a basculé au moment de l'entrée en jeu de Morlaï Silla. L'attaquant guinéen a ensuite réalisé un doublé puis a offert une passe décisive à Mohamed Ali Camara pour la victoire finale du Sili. Avec ce succès, l'équipe de Mandjou Diallo totalise 4 points et termine 2e du groupe.
C'est le Sénégal et l'Afrique du Sud qui verront ses demi-finales dans le groupe B.
Effectivement, les deux équipes ont validé leur billet. Les Sénégalais se sont imposés 2-0 face au Cameroun, tandis que les Sud-Africains, eux, ont battu le Soudan 3-1. Le Sénégal termine donc en tête de ce groupe avec 7 points. L'Afrique du Sud est classée 2e avec 6 points.
Élisée, on connaît maintenant l'affiche des demi-finales.
Oui, Idrissa, on va en plus assister à un duel sous-régional de chaque côté. Et ça commence mercredi prochain. Le Sénégal, premier du groupe B, sera face à la Guinée, deuxième du groupe A. Et puis, la Zambie va en découdre avec l'Afrique du Sud. A noter que ces quatre formations sont toutes qualifiées pour le mondial de leur catégorie en Corée du Sud au mois de mai prochain. Précisons que cela fait 38 ans que la Guinée n'a plus joué une Coupe du Monde junior.
Et puis, élection à la FIFA, Kalusha Boalia se retire.
L'ancien président de la Fédération Zambienne de Football a dit qu'il s'est retiré pour se concentrer sur sa réélection au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Il a fait savoir devant des journalistes, la CAF élira ses représentants à la FIFA lors de son congrès prévu le 16 mars prochain à Addis Abeba. Les membres du comité exécutif de la CAF seront élus lors du même congrès. Boalia était l'un des 3 candidats au poste du représentant des pays anglophones d'Afrique à la FIFA. Le président de la Fédération ghanéenne de football, Kwesi Nyantakli, et le Tanzanien Leodgar Tanga restent donc en lice pour ce poste. Du basketball pour finir, avec vous Idrissa, les résultats de la nuit en NBA.
Indiana bat de justesse Atlanta 97-96, Washington idem face à Orlando 115-114. Même chose pour Utah face à Sacramento 110-109. Dallas écrase Oklahoma City 104-89. Golden State Warriors a eu raison de New York Knicks 112-105. Et puis Phoenix bat Boston 109-106.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les ambassadeurs du Conseil de sécurité des Nations Unies sont en tournée dans les pays du bassin du lac Tchad. Une mission de reconnaissance et de soutien aux dirigeants des pays concernés, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria, en proie à la violence de la secte islamique Boko Haram. Reportage de notre correspondant au Tchad, André Kotmadjingar.
Il est question pour le Conseil de sécurité de l'ONU à travers cette mission de rendre hommage aux dirigeants des pays du bassin du lac Tchad qui se sont investis dans la lutte contre la secte Boko Haram avec leurs propres moyens et explorer les causes réelles de cette crise humanitaire.
La région du lac Tchad n'avait pas eu au cours de l'histoire récente l'attention qu'elle méritait et nous voulions réparer cette erreur qui était une injustice en faisant venir le Conseil de sécurité dans son ensemble visiter les pays de la région et visiter notamment le Niger.
Lui, c'est François Delattre, l'ambassadeur de France auprès des Nations Unies. Face au Premier ministre tchadien ce samedi 4 mars, il a déclaré qu'il est urgent et impératif de soutenir le Tchad qui est devenu un pôle de stabilité de la sous-région, car par la force de frappe de son armée et le sacrifice consenti, il est le leadership des efforts de la communauté internationale dans la lutte contre la secte Boko Haram. Pour François Delattre, cette visite est historique.
Historique parce que les enjeux sont considérables. Alors le suivi doit être à la hauteur. Et c'est notre responsabilité à tous de faire en sorte que nous soyons à la hauteur des attentes placées en nous collectivement. Et c'est la raison pour laquelle, comme première étape, nous attachons une importance toute particulière à la prochaine table ronde des bailleurs de fonds qui se tiendra à Paris, sous l'égide de la Banque mondiale, au printemps prochain, afin de répondre à l'urgence humanitaire que subit ce pays.
Cap sur le Niger, où les émissaires du Conseil de sécurité des Nations Unies ont échangé avec le président nigérien Mamadou Issoufou ce dimanche 5 mars sur la situation des crises humanitaires. Mathieu Raycroft, chef de la délégation à sa sortie d'audience.
Nous avons essayé de mettre la lumière sur la crise oubliée du bassin du lac Tchad. Deuxièmement, nous allons encourager la communauté internationale de mieux répondre à cette crise. Et troisièmement, nous essayons d'encourager les gouvernements de la région de renforcer leurs efforts pour mieux protéger les peuples de la région.
Pour déconstruire cette idéologie qui a pour seul objectif de détruire les communautés, il faut penser au financement des projets de développement, estime le président nigérien Mamadou Issoufou.
Nous sommes convaincus que la solution à toutes les menaces auxquelles nous faisons face passe nécessairement par le développement économique et social. Il faut au-delà de la solution sécuritaire et diplomatique. C'est pourquoi il est indispensable de soutenir le plan de développement économique et social conçu par la commission du bassin du lac Tchad.
La mission se trouve ce lundi au Nigeria pour le même travail. André Kotmadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Ajoutons qu'Abdourazak Idrissa au Niger a participé à la réalisation de ce reportage.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Cameroun, une crise secoue l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'un des principaux partis d'opposition du pays. Son vice-président Célestin Medzigi a été exclu de cette formation que dirige Bello Bouba Maigari. Pour davantage de détails, John Lyndon a joint Célestin Medzigi qui jette un regard sur la situation politique actuelle du Cameroun, tout en maintenant qu'il est toujours vice-président de l'UNDP.
Je suis et je demeure vice-président de l'UNDP au sens où l'UNDP a fait alliance avec le parti que je dirigeais, l'OPAL, en 1997 et au titre de cet acte de fusion, j'avais été porté aux fonctions de vice-président de l'UNDP et cette alliance n'ayant jamais été dénoncée par l'une des parties, ses effets demeurent, à savoir que je suis et je reste le vice-président de l'UNDP.
Comment fonctionne justement cette alliance entre l'OPAL, votre parti donc, et l'UNDP?
Au moment de l'alliance, l'OPAL s'était vu attribuer un certain nombre de positions, dont une position de vice-président du parti. Alors, il fait que le président de l'UNDP, M. Bello Bouba Maigari, prétend aujourd'hui nous avoir exclus alors que non seulement il ne peut le faire au terme de l'alliance, mais aussi parce que les statuts du parti prévoient clairement que le vice-président ne peut être destitué de ses fonctions que par le comité central réuni en une session ordinaire et à la majorité absolue, ce qui n'a jamais été le cas.
Est-ce que Célestin Bédigui sera candidat à la présidentielle de 2018 au Cameroun?
Nous travaillons depuis des années sur un projet et que nous souhaitions d'ailleurs présenter aux militants du NDP à l'occasion de ce congrès dont l'accès nous a été interdit. Et si nous avions eu la possibilité de présenter notre projet et que celui-ci recevait l'adhésion des militants de l'UNDP, il est évident que Célestin Bédigui serait la personne, aurait été la personne la mieux placée pour porter ce projet au moment de l'élection présidentielle de 2018.
Mais de manière générale, comment voyez-vous le paysage politique actuel au Cameroun?
Disons qu'aujourd'hui, le pays est tout de même traversé par un certain nombre de crises préoccupantes. D'abord, il y a la crise traditionnelle de Boko Haram, qui donne d'ailleurs lieu en ce moment à une visite de 15 membres des pays du Conseil de sécurité. Mais il y a aussi une crise anglophone. Cette partie du pays est presque en lockout, c'est-à-dire en ville morte depuis quelque temps. Et les leaders de la société civile qui réclament un retour au fédéralisme ont été interpellés et amenés à Yaoundé. Ils passent devant un tribunal militaire, quelque chose que nous trouvons absolument inapproprié pour régler un problème ou une dissension politique. Donc tout cela fait que ce n'est pas du tout une atmosphère sereine maintenant que nous avons en vue cette élection présidentielle de 2018.
C'était Célestin Bédigui qui se dit toujours vice-président de l'UNDP. Dans la sous-région des Grands Lacs, les femmes qui dépendent quotidiennement du commerce transfrontalier veulent moins d'entraves à leurs activités, plus précisément moins de tracasseries douanières. Pour la commission diocésaine Justice et Paix qui les accompagne, de telles activités contribuent au renforcement d'un climat de tolérance et de solidarité entre les peuples de la sous-région, nous dit notre correspondant sur place, Ernest Mujero.
Ces femmes, regroupées au sein d'une association dénommée Commerçantes solidaires pour la paix dans la région des Grands Lacs, COSOPAC sans sigle, l'ont dit lors d'un tête-à-tête à Bukavu avec les autorités administratives et douanières de Bukavu et Tchangougou. C'était en présence de plusieurs délégués des services rattachés à la douane du Rwanda et de la RDC. Yvette Nabintou est ressortissante de Bukavu et exerce depuis 4 ans le commerce transfrontalier.
Je vais au Rwanda pour les divers, les parfums, les sous-vêtements, et les souliers et je les amène à Bukavu pour les vendre. Aujourd'hui, je suis vraiment indépendante d'une manière financière.
Ces femmes traversent chaque jour plus d'une frontière pour nourrir leur famille. Béatrice Hainyame, ressortissante de Tchangougou au Rwanda.
Ça contribue au développement de notre famille. Ça nous aide à payer les frais scolaires pour nos enfants. Ça nous aide à bien habiller nos enfants, nos maris et nous-mêmes aussi.
Malgré le préjugé du passé entre les habitants de la région, le commerce transfrontalier contribue à l'édification de la paix. Prudence Zawadi, commerçante de Bukavu.
J'ai déjà des amis rwandaises, des amis burundaises. Il y a des fois que j'amène là-bas toute ma famille. Nous rentrons même les soirs. Quand nous avons des fêtes, des deuils, nous sommes ensemble.
Madame Paskazi Moussabimungu, coordonnatrice régionale du projet COSOPAX, estime que depuis 3 ans et demi, elles ont fait des progrès énormes.
Ils ont marqué des pas impressionnants par rapport à la méfiance, stéréotypes ou préjugés qui existaient avant leur rencontre. Une connexion très importante et qui serve de modèle aux autres qui observent.
Ces femmes déplorent tout de même les intimidations à la frontière rwandaise et les tracasseries du côté congolais. Yvette Nabintou.
Au Rwanda, il suffit seulement que tu viennes avec la marchandise, tu donnes la facture là à la frontière et puis tu passes, tu ne donnes rien. Il y a d'intimidation, des petits problèmes d'orgueil. Arrivé au Congo, on ne te demande même pas la facture. Pour traverser avec la marchandise, il faut payer 5 à 6 personnes là-bas.
Béatrice Hainyame lance un appel aux autorités car plusieurs femmes qui ont fait ce commerce n'ont pas fait de longues études.
Les règlements en ce qui concerne les douanes puissent être affichés quelque part. Chaque maman, quand elle passe, elle connaît que comme j'ai un bassin de tomates, je dois donner tel montant.
Les différents services à la douane représentés ont édifié ces femmes sur les différentes exigences douanières. Une marchandise à faire traverser dans les cadres du commerce. commerce transfrontalier ne doit pas dépasser la valeur de 2 500 $ américains. Signalons qu'à ces jours, 120 femmes du Rwanda, du Burundi et de la RDC sont encadrées par les commissions de saison de justice CP dans le cadre du commerce transfrontalier. Ernest Mouirobukavu, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Dans le souci de parer à toute éventuelle dégradation rapide des routes, les ministres des Transports des pays membres de l'UMOA ont adopté un programme appelé Règlement 14, dont l'application dans les pays membres se heurte à de nombreuses difficultés, en particulier la réticence des transporteurs et importateurs. Au Bénin, par exemple, ces derniers exigent du gouvernement la mise en place de la logistique adaptée avant la phase de répression qui démarre le 1er avril. Ginette Fleur Adandé, notre correspondante à Cotonou, explique.
C'est une réalité tangible le fait que les routes au Bénin, construites pour durer 15 ans, s'affaissent et se dégradent au bout de 3 ans. Si pour la plupart les populations pointent du doigt un travail bâclé et sans aucun style, les professionnels du monde des transports pensent que l'essuie-charge ou la charge à l'essieu restent les raisons principales. Et ce règlement 14 qui fixe désormais le nombre de tonnes que devraient transporter les camions vient à point nommé. Si après moult révoltes et protestations, les transporteurs et importateurs béninois sont quelque peu décidés à accompagner la chose, mais pas sans certains préalables, dont parle ici Eladja Rabi Ougaba, président du syndicat des transporteurs et importateurs nouveaux associés du Bénin.
Pour que nous accompagnions l'État à respecter sa signature, nous aussi nous exigions un travail qui doit être fait en amont. Il faut qu'il y ait des pèses essieux et que la formation soit donnée à ces manœuvres qui chargent les camions. Nous souhaiterions que nous soyons aussi en veille pour voir si la Côte d'Ivoire qui est signataire, le Mali qui est signataire, le Sénégal qui est signataire, faut tous commencer le 1er avril. Parce que, Béninois que je suis, mon pays m'est vraiment cher.
La réorganisation du secteur des transports au Bénin peine toujours à se réaliser. L'existence de plusieurs groupes d'associations, de transportateurs et d'importateurs, en est la preuve évidente. Pour Modeste Benangou, transporteur et membre du Conseil national de facilitation, l'initiative est bonne et permettra la survie des routes. Mais il pense qu'il faut penser à la réorganisation du secteur des transports avant la phase répressive, au risque d'engendrer bien des difficultés.
L'une des mesures d'accompagnement que le gouvernement doit mettre à la disposition des transporteurs pour pouvoir réussir à la mise en application effective de ce règlement 14, c'est la réorganisation du secteur des transports. L'État doit prendre son pouvoir régalien pour réajuster le tarif de transport, pour accompagner les transporteurs.
Au niveau du gouvernement, on est confiant de ce que le processus ira à bon port et sans anicroche. Et l'État ne compte pas marchander sa volonté à démarrer la phase répressive le 1er avril prochain. C'est ce que pense le ministre des Transports, Hervé Réromé, qui salue la clairvoyance des acteurs du secteur qui accompagnent cette virée vers la suivi des routes et chaussées du Bénin.
Nous faisons déjà la mise en application au Bénin et nous avons déjà des campagnes de contrôle de la mise en œuvre du règlement 14. Et il en va de l'intérêt de nous tous, de l'intérêt des transporteurs, de l'intérêt de l'administration routière et de l'intérêt de tout le pays, et je dirais même de l'intérêt de toute l'UMOA.
À l'heure actuelle, les pèses essieux ne sont pas dans toutes les cimenteries, les brasseries et autres. En tout cas, c'est le constat que nous avons fait. Et cela risque de compromettre la bonne entente entre l'autorité de tutelle et les transporteurs. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.